Chapitre 2. Une leçon de français. Quand Sarah entra dans la classe, le lendemain, toutes les élèves la dévisagèrent avec de grands yeux curieux. Toutes, depuis Lavinia, qui avait 13 ans et qui se croyait une grande personne, jusqu'à Lottie, qui était à peine âgée de 4 ans et qui était la benjamine de l'école, avaient déjà beaucoup entendu parler d'elle. On savait qu'elle était l'élève dont on ferait parade et qui ajouterait au bon renom de la pension. Quelques-unes d'entre elles avaient même aperçu la femme de chambre française, Mariette, qui était arrivée la veille au soir. Lavinia avait réussi à passer devant la chambre de Sarah quand la porte était ouverte et avait vu Mariette ouvrir un carton qui venait d'être livré par un magasin. C'était plein de jupons avec des volants de dentelle. « Des volants et des volants » murmura-t-elle à son amie Jessie en se penchant sur sa géographie. « Je l'ai vu les secouer. » « J'ai entendu Miss Munchin dire à Miss Amelia que ses vêtements étaient si somptueux que c'était ridicule pour une enfant aussi jeune. Maman dit que les enfants devraient être habillés simplement. Elle porte un de ces jupons-là en ce moment. Je l'ai remarqué au moment où elle s'est assise. »« Elle a des bas de soie, » murmura Jessie, se penchant aussi sur son livre. « Et ce qu'elle a de petits pieds, je n'en ai jamais vu d'aussi petits. »« Oh !» grogna Lavinia avec dépit. Ce sont ses souliers qui sont petits. Maman dit que même les gros pieds peuvent paraître petits si on a un habile cordonnier. Je ne la trouve pas du tout jolie. Ses yeux ont une si drôle de couleur. Elle n'est pas jolie à la manière des autres personnes, répondit Jessie en jetant un coup d'œil à la dérobée à travers la pièce. Mais elle donne envie de la regarder de nouveau. Elle a de très longs cils. Ses yeux sont presque verts. Sarah était tranquillement assise à sa place, attendant ce qu'on lui dirait de faire. On l'avait placée auprès du bureau de Miss Minchin. Elle n'était nullement intimidée par de nombreuses paires d'yeux qui la dévisageaient, mais intéressée, au contraire, et elle regardait tranquillement les enfants qui la regardaient. Elle se demandait à quoi ses futures compagnes pensaient, si elles aimaient Miss Minchin, si elles avaient du goût pour leurs leçons, si quelques-unes d'entre elles avaient un papa ressemblant un peu au sien. Le matin même, elle avait eu une longue conversation avec Émilie sur son papa. « Il est en mer maintenant, Émilie, » lui avait-elle dit. « Il faut que nous soyons de grandes amies et que nous nous fassions des confidences. Émilie, regarde-moi. Tu as les plus jolis yeux que j'ai jamais vus. Mais comme je voudrais que tu saches parler. » Comme elle était pleine d'imagination et de fantaisie, elle pensait que cela lui serait un puissant réconfort de s'imaginer qu'Émilie était réellement vivante, qu'elle l'entendait et la comprenait. Après que Mariette lui eut mis sa robe bleu foncé d'écolière et lui eut noué les cheveux d'un ruban de même nuance, elle se tourna vers Émilie qui était assise sur une chaise de poupée et lui donna un livre. « Tu peux lire en m'attendant, » lui dit-elle. Remarquant que Mariette la considérait avec curiosité, Sarah lui expliqua avec un petit air sérieux. « Je crois que les poupées peuvent faire et comprendre bien des choses. Mais elles ne veulent pas que nous le sachions. Peut-être qu'Émilie sait lire et parler et marcher, mais elle ne veut le faire que lorsqu'il n'y a personne dans la chambre. Vous comprenez que si les gens savaient que les poupées sont capables de faire quelque chose, on les ferait travailler. Ainsi, peut-être... « Se sont-elles promis réciproquement de garder cela secret ?»« Tant que vous êtes dans la chambre, Émilie reste simplement assise à vous regarder. »« Mais dès que vous sortez, elle se met peut-être à lire, ou bien elle va regarder à la fenêtre. »« Ensuite, dès qu'elle entend venir quelqu'un, elle court bien vite se rasseoir, faisant semblant d'y être restée tout le temps. »« Comme elle est amusante !» se dit Mariette, et descendant à la cuisine, elle en parla à l'une des bonnes. Sa sympathie était déjà acquise à cette étrange petite fille au visage si intelligent, aux manières charmantes. Elle avait eu à s'occuper précédemment d'autres enfants, qui n'étaient pas si polis, tandis que Sarah avait une façon à elle, douce et aimable, d'apprécier les services qu'on lui rendait sans jamais oublier d'ajouter un « S'il vous plaît, Mariette » ou « Merci, Mariette » qui prévenait en sa faveur. Elle ne remercierait pas d'une manière plus affable une grande dame, se disait Mariette, qui pensait encore « Elle a l'air d'une princesse, cette petite. » De fait, Elle était enchantée de sa nouvelle petite maîtresse, qui lui faisait trouver sa place très agréable. Donc Sarah, bien sagement assise à sa place, était l'objet de la curiosité de toutes les élèves, quand Miss Minchin donna un coup sec sur son bureau. « Mesdemoiselles, dit-elle, je veux vous présenter votre nouvelle compagne. » Toutes les petites filles se levèrent, et Sarah fit de même. « J'espère que toutes vous accueillerez bien Miss Crewe. Elle nous arrive de très loin, des Indes. Aussitôt que la classe sera terminée, vous ferez connaissance. » Les élèves s'inclinèrent cérémonieusement, et Sarah leur fit une petite révérence, puis toutes s'assirent et se regardèrent entre elles. « Sarah, dit Miss Minchin, de son ton de maîtresse d'école, venez ici, près de moi. » Elle avait pris un livre sur son bureau et le feuilletait. Sarah s'approcha d'elle poliment. « Comme votre papa a engagé pour vous une femme de chambre française, j'en conclus qu'il désire que vous étudiez spécialement le français. » Sarah se sentit un peu embarrassée. « Je crois qu'il l'a fait venir, dit-elle, parce qu'il pensait que cela me ferait plaisir, Miss Minchin. » « Je crains, dit Miss Minchin, avec un sourire un peu aigre, que vous ayez été une petite fille bien gâtée, qu'il s'imagine toujours qu'on s'est préoccupé que de son plaisir. Mon idée à moi, c'est que votre papa désire que vous appreniez le français. » Si Sarah avait été plus âgée ou moins scrupuleusement déférente, elle aurait pu s'expliquer en très peu de mots. Mais elle ne sut que rougir. Miss Minchin était très sévère, très imposante. Et elle avait l'air si absolument certaine que Sarah ne savait pas un seul mot de français qu'il semblait à Sarah que ce serait impoli de lui démontrer son erreur. La vérité était que Sarah ne se rappelait même pas le temps où elle ignorait le français. Son père avait l'habitude de lui parler dans cette langue quand elle n'était encore qu'un bébé. Sa mère était française, et le capitaine aimait le français en souvenir de sa femme. Il en avait donné le goût à Sarah dès son plus jeune âge. Je n'ai vraiment jamais appris le français, mais... » commença-t-elle, essayant timidement de s'expliquer. Une des principales humiliations secrètes de Miss Minchin, c'était de ne pas savoir elle-même le français. Mais elle s'en cachait de son mieux, et ne désirait donc pas discuter sur ce sujet, de peur de s'exposer à voir son ignorance découverte par une nouvelle élève. « Cela suffit, » dit-elle avec un ton sec. « Si vous ne l'avez jamais appris... » Il vous faut commencer tout de suite. Le professeur de français, M. Dufarge, va arriver dans quelques minutes. Prenez ce livre et étudiez-le en l'attendant. » Sarah sentit ses joues devenir brûlantes. Elle retourna à sa place et ouvrit le livre, dont elle regarda gravement la première page. Elle savait que ce serait impoli de sourire et était bien décidée à être polie. Mais il lui semblait très drôle de se voir obligée d'étudier une page où il était expliqué que le père signifiait « the father » et la mère « the mother ». Miss Minchin la regardait attentivement. « Vous n'avez pas l'air contente, Sarah, » dit-elle. « Je regrette que l'idée d'apprendre le français ne vous plaise pas. »« Cette idée me plaît beaucoup, au contraire, » répondit Sarah, essayant de nouveau de s'expliquer. « Mais il n'y a pas de mais, » dit Miss Minchin, « quand on vous demande de faire quelque chose. Reprenez votre livre. » Et Sarah docilement le reprit sans sourire. Même quand elle lut que le fils se traduisait par « the son » et le frère par « the brother ».« Quand M. Dufarge sera là, » pensa-t-elle, « je me ferai mieux comprendre. » M. Dufarge arriva bientôt après. C'était un Français d'un certain âge, à l'air aimable et très intelligent. Il parut s'intéresser à Sarah quand il l'aperçut plongée dans son petit livre de vocabulaire. « Est-ce une nouvelle élève pour moi, madame ? » demanda-t-il à Miss Minchin. « J'en serais très heureux. » Son père, le capitaine Crewe, désire beaucoup qu'elle apprenne le français. Mais je crains que cette langue lui inspire une antipathie d'enfant gâté. « Je le regrette, mademoiselle, » dit-il avec bonté à Sarah. « Peut-être, quand nous commencerons à l'étudier ensemble, saurai-je vous prouver que c'est une langue qui a beaucoup d'attrait. » La petite Sarah se leva. Elle commençait de se sentir découragée et presque en disgrâce. De ses grands yeux verts, et plein d'innocente confiance, elle regarda M. Dufarge, persuadée que lui la comprendrait dès qu'elle parlerait. Elle commença donc à s'expliquer, très simplement et gentiment, s'exprimant en un très bon français. Madame la directrice ne l'avait pas bien comprise. on ne lui avait pas, à proprement parler, enseigné le français, c'est-à-dire pas dans les livres, mais son père et d'autres personnes de son entourage s'exprimaient dans cette langue. Elle lisait et écrivait le français comme l'anglais. Son papa aimait beaucoup le français, et elle l'aimait aussi, puisqu'il l'aimait. Sa chère maman, morte depuis si longtemps, était de nationalité française. Enfin, elle serait heureuse d'apprendre tout ce que M. Dufarge lui enseignerait, mais ce qu'elle avait essayé d'expliquer à Mme la directrice, c'est qu'elle connaissait déjà tous les mots enseignés dans le livre, et en même temps, elle lui tendit le petit recueil. Quand elle commença de s'expliquer, Miss Minchin sursauta brusquement et la fixa par-dessus ses lunettes, presque avec indignation, jusqu'à ce qu'elle eût fini de parler. M. Dufarge sourit, et d'un sourire très heureux, d'entendre cette jolie voix enfantine s'exprimer dans sa langue natale avec tant de gentillesse et de facilité, cela lui donnait presque l'illusion d'être en France. Car à Londres, par certains temps de brouillard, sa chère France lui paraissait quelquefois à l'autre bout du monde. Quand Sarah eut fini de parler, il lui prit le petit livre des mains, avec un regard presque affectueux. Mais c'est à Miss Minchin qu'il s'adressa. « Ah, madame, dit-il, il ne me reste pas grand-chose à lui apprendre. Elle n'a pas appris le français. Elle est française. Son accent est délicieux. »« Vous auriez dû me le dire, » s'écria Miss Minchin, très mortifiée, en se tournant vers Sarah. « J'ai bien essayé, » dit Sarah. « Je ne m'y suis sans doute pas bien prise. » Miss Minchin savait bien que l'enfant avait essayé de s'expliquer, mais sans y réussir. Elle était cependant furieuse, d'autant plus que les autres élèves n'avaient rien perdu de toute cette scène et qu'elle apercevait Lavinia et Jessie en particulier qui pouffaient de rire, derrière leur grammaire française. « Silence, mademoiselle, » dit-elle sévèrement en tapant sur son bureau. « Silence, tout de suite !» Et dès ce moment, elle se sentit plutôt mal disposée envers sa nouvelle élève.